Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans le numéro 133 de Famille, justice, enfance avec Stéphane sur RLP pour aujourd'hui la quatrième et dernière partie d'un spécial Winnicott avec Monsieur Joël Clerget. Nous aborderons en conclusion la parole de Winnicott concernant les papas, ainsi que l'application que nous pouvons donner, nous observateurs, au regard de Winnicott sur le monde qui nous entoure. Nous aurons également le retour de la chanson de la semaine après Monsieur Clerget, afin de garder la lisibilité et la continuité pour ceux qui nous suivent sur YouTube et qui voudraient avoir les quatre émissions les unes après les autres pour entendre l'intégralité de ces presque 2 heures d'interview retravaillées qu'il nous a consacrées. Ne bougez pas. C'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Vous m'avez dit désirer parler des papas chez Winnicott. On dit qu'il n'en parlait pas. Est-ce que c'est vrai, ça?
Alors, c'est une question sur laquelle j'ai été sollicité. C'est pour ça que je l'ai mis un peu au travail. J'avais prévu d'écrire un petit livre sur les papas chez Winnicott. Bon, j'ai pas trop eu le temps. Mon éditrice, Marie-Françoise Sacrespère-Dubois d'Erès, m'avait dit, oh ben, si tu l'écris, je prends. Alors voilà, ce que disait Winnicott. Donc, ça, je pourrais être motivé. Et j'en ai un autre entre-temps. Alors donc, Winnicott disait toujours, dans le terme de mère, j'inclus le père. Dans la mère, je comprends toujours le père. Alors, pour essayer de saisir, d'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'il ne parle jamais du père, au contraire. J'ai essayé d'évoquer comment il en parle. Winnicott, il a bel et bien fait une place au père, mais au père concret, si vous voulez, à celui de tous les jours, c'est-à-dire au papa. Hein, comme il disait, au papa du petit déjeuner. Mm-hmm. Ce qui est très humain, très concret. Et sa conception du père n'est jamais détachée de sa relation à la mère d'un enfant. Ce qui est un peu aussi structurel. C'est-à-dire que c'est ça que je pense qui fait que ça, on dit qu'il parle pas tellement du père. Sa conception du père, elle est foncièrement ternaire. Elle implique d'emblée une mère, un enfant et son père. C'est-à-dire que pour lui, ce que j'appelle moi la dévolution de paternité ne se fait point sans la mère. C'est-à-dire pas sans la mère, plus même l'habitant. Et alors, bon, il faut voir que sa conception du père et du papa, elle est quand même assez marquée historiquement. Hein, on est juste dans l'après-guerre.
On est dans l'époque qu'on appelle vulgairement le patriarcat, on va dire. Hein.
Alors
cette
voilà
phase qui commence à la révolution industrielle, puis qui se déconstruit dans les années 70, qui a ses caractéristiques quand même.
Voilà, exactement. Hein, tout à fait. Donc on est dans une phase des conceptions des rôles masculins et féminins, des emplois, etc., de la répartition des tâches très, très, très marquées.
Très schématisées, on va dire. Ouais.
Très schématisées, très marquées, oui, très schématisées, tout à fait, très stéréotypées même. Hein. Bon, mais Winnicott quand même déploie quelque chose qui est plutôt une conception du père et du papa. Et il le fait sous la modalité qui inclut la part de chaque partenaire impliqué. Alors évidemment, nos auditeurs vont bien saisir que sa conception du père se situe dans ses élaborations relatives au phénomène transitionnel, à l'objet trouvé, créé, à tout cela. Hein. Alors, comme je disais, donc c'est une conception assez datée. Elle est très dépendante de l'esprit de l'époque. Mais elle a évolué. C'était grosso modo quelque chose, comme vous dites, qui a heureusement changé. Le père travaille à l'extérieur, il assure les finances de la famille, bon voilà. Mais Winnicott quand même dit bien, le père c'est quelqu'un qui a été lui-même un nourrisson et qui est convié à se mettre en place de bébé dans le souci partagé, on retrouve la sollicitude de tout à l'heure, de lui, du bébé et de son devenir. Hein. Et ce qu'il dit, et qui moi m'a plu assez, il faudrait pas sous-estimer les qualités maternelles, enfin entre guillemets, du père. Alors, je voudrais essayer de dire comment, ça peut prêter à confusion. Par exemple, pour Laura de Thiville, elle dit la référence à la fonction du père chez Winnicott, elle est à la fois essentielle et implicite. Il dit « le père est présent sans cesse en filigrane ». Alors, il faut voir aussi que c'est un peu comme maintenant pour les Ukrainiens, les Ukrainiennes et les enfants, c'est que Winnicott, à cette époque, évoque les ravages causés par l'absence des pères du fait de la guerre. Hein. Et moi, les personnes ukrainiennes que j'ai eu l'occasion d'entendre parler ici, elles sont venues ici avec leurs enfants, dont une disait que c'était essentiellement pour épargner à ses enfants le bruit des bombes. Hein, et je vous assure, quand ils sont arrivés dans la famille d'accueil, les enfants, ils ont mis plusieurs jours avant de pouvoir sortir.
Oui, on peut l'entendre, oui, bien sûr.
Bien sûr. Et on sent bien que cette maman et que ses enfants, ils sont déchirés par quelque chose qui est quand même humainement quelque chose d'assez éprouvant et voire atroce, c'est que de ne pas savoir si le papa de ses enfants et son compagnon en l'occurrence, il est vivant ou mort sur le front, quoi. Ouais. C'est quand même, vous voyez, on voit bien la situation de tension qui est tout à fait actuelle, hein, je veux dire, elle est plus de la guerre de 1940. Donc des gens dans cette situation, des familles, enfin des hommes et des femmes sont dans cette situation.
Oui, puisque lui, effectivement, 1896-1971, 14-18, il avait 18 ans,
Et
39-45, c'était effectivement un homme mûr. Il a vécu ces deux périodes-là, oui, ces deux zones-là, où effectivement l'homme était très absent de la société et où il arrivait qu'il ne revienne pas.
Exactement. Et c'est ce qui se passe aussi actuellement. Enfin, je parle de l'Ukraine, mais c'est dans toutes les guerres, qui sont quand même assez nombreuses. Enfin, tous les conflits sont assez nombreux à la surface de la Terre, on peut pas nier.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, est-ce que Monsieur Winnicott a eu une influence sur des penseurs contemporains? Je veux dire, est-ce qu'il a marqué vraiment son époque dans ses travaux de pédiatrie sur l'enfance?
Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, il n'a pas eu d'enfance et il a été un très bon pédiatre, un très bon psychanalyste, comme quoi. Hein. Alors, je pense qu'il est assez connu et reconnu. Alors, c'est un peu paradoxal, mais ça, c'est assez typique de l'université française. Il a été assez reconnu par les universitaires français parce que pour certains universitaires, ce qui vient du monde anglo-saxon, c'est toujours un peu mieux, entre guillemets, je mets un peu d'humour plus que de l'ironie, que ce qui vient de France. Or, par exemple, Winnicott est beaucoup plus connu à l'université, enfin dans les universités que je connais, je ne les connais pas toutes, heureusement, que Françoise Dolto, par exemple, ou même que Lacan. Lacan, à l'université, on en parle parce qu'on veut pas paraître idiot si on n'en parle pas, vous voyez, mais sur le fond, Winnicott, je pense que... Françoise Dolto avait dit à un moment donné, on lui avait demandé, qu'est-ce que vous pensez de Winnicott, etc. Si j'avais été un homme, j'aurais travaillé comme lui. Bon, c'était une femme boutade, hein, évidemment, puisqu'elle était bel et bien une femme et qu'elle travaillait à sa manière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, je suis pas mécontent de parler avec vous à des auditeurs dans le cadre de Radio Périgord, parce que j'espère donner à entendre la complexité de sa pensée, puis la subtilité. C'est pas réductible.
Et bon, pour l'époque, c'est assez large quand même, tout à fait.
Absolument. Ouais. J'espère que j'aurais pas été trop compliqué, que je n'aurais pas trop complexifié les choses déjà compliquées, les choses complexes. J'aurais pas compliqué les choses complexes. Mais oui, il est quand même assez connu. Hein. Il y a un certain nombre de philosophes qui ont parlé de lui. Par exemple, quand j'ai coordonné le numéro de Spirale, j'ai demandé à deux philosophes d'écrire un article, Anne Boissière, Jean-Philippe Pierron. Sont deux amis et ils ont écrit deux très beaux articles sur Winnicott, vous voyez. Il est assez connu, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur son œuvre. Il est très connu au Brésil, il y a des associations Winnicott en Chine, en Grèce, en Espagne, Portugal, Angleterre évidemment, enfin en Grande-Bretagne. Et en France, il y a donc ce qu'on appelle IWA, IWA, International Winnicott Association France, dont la présidente est Laura de Thiville. On doit être une bonne trentaine de membres. On a une activité plus ou moins dense. On a une activité beaucoup. Enfin, moi, je suis un peu retiré de tout cela. On a une activité beaucoup de lecture des textes de Winnicott. Et je dois dire que de lire ces textes est tout à fait passionnant.
Mais est-ce que les psychologues d'aujourd'hui, les psychanalystes, les psychiatres, les travailleurs sociaux, l'institution judiciaire est influencée par les travaux de Winnicott à l'époque?
Alors, je ne saurais pas dire. Je pense qu'ils le sont un peu par ricochet ou par, excusez l'expression, mais un peu par la bande. Mais des gens qui travaillent et qui lisent Winnicott et s'en inspirent, parce que quand on lit Winnicott et quand on travaille son œuvre, ça modifie quand même sa pratique. Hein. Par exemple, au niveau judiciaire, il y a tout son travail sur les adolescents et la, qui sont tout à fait pertinent. Mais oui, oui, ça pourrait, ça peut. Je pense qu'il y a, il y a des gens qui s'en inspirent, mais un peu par par voie intermédiaire, vous voyez, parce que moi j'ai le grand plaisir de lire en anglais parce que c'est un peu irremplaçable. Mais c'est fécond. On peut lire un peu n'importe quel ouvrage de lui, on n'est pas perdu.
Et vous, vous pensez encore, même 40, 50 ans plus tard, qu'il gagnerait à être plus connu et qu'on devrait mieux le regarder?
Ah oui, ah oui, oui. Ah ben, lui et François Zolto, j'en suis sûr. Mm-hmm. Il y a beaucoup, parce qu'on critique beaucoup les œuvres dont on ne saisit pas le ressort.
Bien sûr.
Par exemple, si on lit.
Parce qu'on ne comprend l'un, pas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et l'un, l'une et l'autre, là, Winnicott et Zolto, sont quand même des cliniciens. Après, on, tout clinicien, on se trompe, on fait des, on écrit des. Moi, je reconnais que j'ai pu écrire des bêtises. Mais je veux dire, c'est pas parce que, on, si vous voulez, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on peut pas le lire et le travailler. Moi, j'ai beaucoup travaillé des gens par spirale à ARS qui ont beaucoup parlé des bébés et de l'enfance sur des bases avec lesquelles je ne suis pas en accord. Mais je les lis parce que je trouve important d'entendre ce que d'autres disent pour élaborer, voire conforter sa propre conceptualisation des choses, quoi. Hein? Ah, Winnicott peut apporter beaucoup, ça, j'en suis sûr.
D'accord.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Dernière petite question à cette époque-là, dans ses travaux, pour lui, le fonctionnement de cette fabrication humaine, de cette création de l'être humain en passant par le bébé, est-ce qu'il la différencie de celle de l'animal ou est-ce que les mécanismes sont les mêmes
Alors, ça c'est une question, pour moi c'est une question très actuelle. D'ailleurs, il y a un mot qui dit quelque chose qui est partagé par les humains et par les animaux, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est le mot de sentience. C'est la capacité d'éprouver quelque chose.
Mmh.
Et visiblement, les animaux éprouvent.
Oui, ça, des choses. Aujourd'hui, on le sait, bien sûr.
Ah voilà, on le perçoit.
Ils ont des amis, animaux, ils ont un petit langage, ils ont des
voilà,
familles, bien
les,
sûr.
Les animaux ont une vie relationnelle et communicationnelle étonnante. Il faut voir qu'ils ont des performances sensorielles dans certains domaines nettement supérieures à nous. L'homme est un être assez limité au niveau sensoriel, de ses aptitudes sensorielles. Il y a infiniment. Alors, les animaux n'ont pas, par exemple, le flair chez un chien, le louis chez voilà. Il y a plein d'éléments qu'un animal peut avoir de façon tout à fait supérieure à l'être humain. Moi, ce qui me paraît important à l'heure actuelle dans mon écologie, si j'ose dire, dans mon éco-psychanalyse, c'est de mettre en relation, d'être en relation avec les êtres autres qu'humains. Pas, oui, parce que, je vais vous dire, beaucoup disent les humains et les non-humains. Moi, je dis pas les humains et les non-humains, je dis les humains et les autres qu'humains. Pour ne pas mettre une négativité sur ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire, moi, j'inclus les animaux, les végétaux et les minéraux. Les minéraux ont une vie. Enfin, ils ont une vie d'érosion, une vie de...
Oui, mais je veux dire, en fait, une petite biche ou un petit girafe qui tombe de la mer par terre, qui se redresse, qui commence à téter et puis qui, au bout de quelques minutes, heures, se met à courir et marcher. Ce processus d'accaparation du monde, c'est le même ou c'en est un autre?
Ah ben, je pense que c'est pas exactement le même puisque c'est une modalité animale, mais c'en est une. Vous voyez, moi je suis de la campagne, ce que vous dites là m'évoque tout à fait, qu'un poulain qui naît, cinq minutes après il gambade, une heure après il tète sa mère, les petits cochons vont directement aux mamelles de leur mère pour en faisant des petits grognements. Ah non, alors moi je dirais que nous, les êtres humains, nous avons cette faculté tout à fait particulière qui est celle de la parole, hein. Mais moi, je ne conteste pas aux animaux la possibilité d'un langage, d'une expression.
On a trouvé jusqu'à 200 mots selon les espèces. Enfin, c'est beaucoup plus petit que chez nous, hein, mais pour certaines espèces,
oui, oui.
Sont des modalités de communication.
Il y a d'autres formes. C'est-à-dire, je crois que ce qu'on découvre à l'heure actuelle, c'est que les modalités humaines de connaissance et d'approche du monde ne sont pas les seules. Et que les animaux, les végétaux, on commence à découvrir que les végétaux ont des communications entre eux par les branches, les feuilles, les racines.
Enfin, les phéromones.
Il y a tout un système. Voilà, exactement, par les toutes les dispositions olfactives. Moi, je suis très sensible au fait de justement de raisonner en termes de milieu dans lequel se trouve un certain nombre d'êtres qui composent le monde et que nous avons une solidarité de milieu tragique-t-il avec ces êtres, avec tous les autres êtres du monde. On est sensible ou pas d'ailleurs.
Et tout ceci, vous le retrouvez dans les œuvres de Donald Woods Winnicott.
Alors, on ne le retrouve pas exactement sous cette forme.
Vous l'en déduisez peut-être.
On peut tout à fait, en tout cas, pour moi, ça va tout à fait dans cette possibilité, justement, de ce qu'il dit de l'environnement, lit, enfin, avec la consonance anglaise du mot, lit l'être humain avec tout ce qui l'entoure et avec ce qu'il partage. Moi, j'aime beaucoup ce mot qu'on retrouve dans la langue anglaise et chez Winnicott aussi, le verbe to share, le shared, partager. Pour moi, la vie est un partage. Et chez Winnicott, c'est complètement cela, quoi. Hein. C'est un partage avec d'autres espèces. Voilà.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc, Donald Woods Winnicott, il y a une fondation, des ouvrages, pensée.
Il y a une association internationale. Il y a l'association Winnicott France. Donc, si on fait IWA France, on tombe sur le groupe français. On peut y aller sur le site, il n'y a pas de problème. Au niveau des publications, sur le site de l'IWA, il y a des conférences. Il y a des textes qu'on peut retrouver, dont un que j'avais fait pour une journée. Il y a, si les gens sont intéressés, mais je crois qu'il est épuisé, alors faut voir après avec Cairn Info. Donald Winnicott aujourd'hui, le Spiral, il est, je crois, épuisé. L'article que j'ai écrit, qui est sur le site d'IWA France, ça s'appelle « Souffle de l'esprit ». Corps de contact et portance de la psyché. Et il y avait aussi dans Bébé et son corps, j'avais écrit une assez longue partie consacrée à Winnicott. Et je dois publier prochainement un livre chez RS. Alors, le titre n'est pas encore fixé parce que le titre que j'avais fixé ne convient pas à l'éditrice, mais le sous-titre lui convient. Alors, je peux toujours le dire. Ça s'appelle Éco-psychanalyse des interactions sociales.
D'accord.
Et il y a un chapitre consacré à Winnicott, alors sur quelque chose dont on a parlé un certain nombre de choses aujourd'hui, qui s'intitule « Le lieu où nous vivons, la créativité, lieu du sujet dans le jeu ». Il y a tout un chapitre dans ce prochain livre qui devrait paraître au mois de juin, je pense. Voilà.
D'accord. Un petit mot de la fin ?
Eh bien, écoutez, si ce que je pourrais dire, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de Winnicott, il faut que je le retrouve dans mes petits papiers, c'est attendez, je vais poser mes papiers que les auditeurs ne soient pas encombrés de mes bruits. Dans La créativité et ses origines, il a cette très belle phrase: After being, doing and being done to, but first being. Après être, faire et accepter qu'on agisse sur vous, mais d'abord être. Et pour Winnicott, l'être précédait et devait précéder le faire. Voilà. Being first. Voilà.
C'était Joël Clerget pour RLP. Merci, Monsieur Clerget.
Stéphane, je vous remercie infiniment. Vous voyez, je suis assez bavard. Il ne faut pas me le chauffer trop sur Winnicott.
Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance.
J'ai souvent eu tendance à rapper ma peine. Aujourd'hui, viens chanter ma joie, Inaya.
Je vis dans les étoiles depuis que t'es là. Regarde-moi, regarde-moi. Je ne sais plus avoir mal depuis que t'es là. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Oh, Inaya. Ma vie. Elles t'ont mis dans mes bras et j'ai eu l'impression d'avoir volé un bout du paradis. Je ne savais pas que Dieu m'aimait autant jusqu'au moment où tu m'as souri. Et là le temps s'est arrêté. Comment te l'expliquer? Celle qui réussit à soigner mes plaies,
je serai pour toi.
Celui qui fera la guerre pour que t'aies la paix.
Mon amour pour toi
devrait être comme isolé. Mais comment te l'expliquer? Je vis dans les étoiles depuis que t'es là.
Regarde-moi, regarde-moi.
Je ne sais plus avoir mal depuis que t'es là. Ton visage, mon plus beau paysage. Ton regard, mon plus beau voyage. Tes petites mains, mes plus belles caresses. Tes petites joues, l'endroit préféré de mes lèvres. Donc fini les SOS. Comment te l'expliquer? Celle qui réussit à soigner mes plaies.
Je serai pour toi.
Celui qui fera la guerre pour que t'aies la paix. Comment te l'expliquer? Je vis dans les étoiles depuis que t'es là.
Regarde-moi, regarde-moi.
Je ne sais plus avoir mal depuis que t'es là.
Viens dans mes bras, viens dans mes bras.
Oh Inaya. Ma fille, t'es ma vie, tu sais. Ma vie, Inaya, Inaya. Ma fille, depuis que Cupidon m'a présenté ta mère, l'aiguille de ma boussole ne me dirige que vers un rêve de t'avoir auprès de moi. Accroche-toi à mes ailes, pour toi j'irai chercher les perles de pluie dont parlait Brel. Moi je suis fou de toi, je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent pas de Marie, mais que de toi, t'es ma plus belle médaille. Tous mes crimes et SOS sont partis dans les airs depuis que t'es ma fille, ma
fille. Je vis dans les étoiles depuis que t'es là.
Regarde-moi, regarde-moi.
Je ne sais plus avoir mal depuis que t'es là.
La vie c'est la famille, à moi c'est ma femme, ma fille, mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, mes potes, Street Kid, ma psychiatre, yeah. Yeah. Même si mon fils me manque, Mashallah, Alhamdulillah, Inaya, qu'Allah te garde, Inshallah, moi na hangou. Tu sais pas ce que tu es pour ma vie. Tu sais pas. T'as changé ma life, ma fille. Inaya, Camille. Yeah.